Changement de rythme, changement de ton également sur STFM en direct. Notre invité Francis Wirth. Bonsoir Francis.
Bonsoir à tous.
Merci d'être venu nous rendre visite. Vous n'êtes pas venu les mains vides puisque vous avez amené avec vous votre nouveau CD. Francis Wirth Play Marc Mignon. Hein, c'est le titre de cet
Absolument.
Album. C'est le premier CD. Avant de raconter l'histoire, oui ou non, et après on viendra en détail.
C'est le premier enregistrement en partenariat avec le compositeur Marc Mignon.
D'accord. Avant d'aller plus loin sur la présentation de ce CD, c'est la présentation du personnage qui m'intéresse. Qui êtes-vous, Francis Wirth ?
Je suis musicien, je suis pianiste, je suis également professeur. J'enseigne le piano à l'école municipale de musique de Haguenau et j'ai une classe également à Strasbourg. Et par-delà cette activité, j'ai également une activité de concert.
D'accord, donc c'est déjà un emploi du temps bien chargé.
Très chargé.
Très chargé, et vous avez pris le temps de venir nous rendre visite pour nous parler de vous. Francis Wirth, vous êtes tombé dans la musique classique quand vous êtes né, comme Astérix, Obélix, vous commencez
presque. Presque.
Racontez-nous un petit peu.
Mes parents ne sont pas musiciens, mais mélomanes.
Mm-hmm.
Et un jour, alors que je devais avoir 5 ans, en rentrant de l'école, j'ai trouvé un piano à la maison. Mes parents avaient loué un instrument de manière à ce que je puisse essayer l'apprentissage de cet instrument. Et donc très rapidement, j'ai pris des cours.
Ouais.
J'habite à Wissembourg et donc j'ai travaillé avec une professeure en privé de la ville de Wissembourg. Et ça fonctionnait plutôt bien, l'instrument me plaisait, je me débrouillais plutôt bien d'après ce qu'on disait.
Mmh.
Et donc j'ai continué, j'ai pas envisagé de changer d'instrument comme certains, je prenais du plaisir à pratiquer. Et donc de fil en aiguille, je suis assez rapidement arrivé au conservatoire à Strasbourg, j'avais 11 ans.
Parce que vous aviez envie de progresser avec cet instrument.
Je dirais qu'à 11 ans, j'avais pas encore les capacités de réflexion par rapport à un avenir, mais... mes parents avaient discuté avec d'autres personnes et pensaient que ça, en effet ce serait mieux de pouvoir approfondir la discipline en rentrant au conservatoire.
Alors d'aujourd'hui ça paye en même temps, hein, ça a payé, ça a marché, conservatoire, ensuite qu'est-ce qui s'est passé, 11 ans
conservatoire c'est tout un cursus d'études bien établi.
Ouais.
Avec des disciplines, bon, avec en parallèle évidemment l'apprentissage scolaire évidemment. Donc je suis allé jusqu'au bac. Et arrivé au bac, après l'obtention du bac, je me suis arrêté et je n'ai alors à ce moment-là fait plus que de la musique. Bon, à la date du bac, j'avais déjà plusieurs prix de conservatoire. Donc prix de piano, prix de solfège, acoustique, déchiffrage, enfin je ne sais plus exactement.
Vous étiez un peu en avance sur votre âge ou bien...
Non, j'étais pas le plus vieux ni le plus jeune, hein,
ouais.
Donc voilà, ça fonctionnait bien.
Oui, donc vous avez poursuivi.
Donc après le bac... Parce que le bac, c'était quand même une sécurité en cas de non-réussite dans le domaine musical, parce qu'il n'y a pas de métier tout fait dans la musique. Donc, j'ai dit, entre guillemets, il faut travailler, puis essayer d'aller le plus loin possible, et puis essayer de trouver ensuite sa voie. Et donc, j'ai continué à travailler sérieusement toutes les disciplines musicales les plus importantes à mes yeux.
Ouais. Par exemple, quand vous dites de travailler les thèmes musicaux, les choses qui...
Pas tout à fait.
Non.
C'est-à-dire que mon activité principale restait bien évidemment le piano.
Ouais.
Donc c'était plusieurs heures par jour.
Mm-hmm.
Ça pouvait aller jusqu'à 6-8 heures par jour.
Ah oui.
Oui.
Mmh. Mais c'est pas comme ça en claquant des doigts que...
Non.
6-8 voilà. heures. Mais c'est bien de le rappeler et de le dire aussi.
Et parallèlement, je suivais des cours d'histoire de la musique, d'analyse, de composition, d'écriture, d'accompagnement, enfin bon, toutes les disciplines musicales auxquelles on peut avoir accès. Et petit à petit, on va sélectionner parce que quelqu'un qui va par exemple faire de l'analyse à haut niveau fera 6 à 8 heures d'analyse par jour également. Donc on ne peut pas faire 6 à 8 heures dans toutes les disciplines.
Mmh.
Donc à un bout d'un moment, ayant atteint un certain niveau, je m'arrêtais dans certaines disciplines pour poursuivre davantage dans d'autres. Et bon, là, celle où j'étais le plus loin, bien évidemment, c'est le piano.
Ouais.
Ça, c'est logique.
Et vous vous êtes arrêté, une fois que vous avez tout réussi, ça nous a pris combien d'années, toute cette aventure ?
J'allais dire les derniers prix obtenus. Pianistiquement, je devais avoir 23 ans, 22 ans.
Voilà. Oui, c'est effectivement jeune, quoi.
Voilà.
Je veux dire, à 23 ans, de tout avoir en ce qui concerne le piano, tout ce qu'il faut.
Voilà. Mais bon, ça ne donne pas un métier malgré tout.
Voilà, parce c'est que, aussi la suite que...
Voilà.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
Parallèlement, après le bac, l'année après le bac, j'ai commencé déjà à donner quelques cours dans une école de musique. C'est-à-dire qu'un directeur d'école me connaissait, m'avait déjà entendu jouer, souhaitait que je vienne donner quelques heures de cours dans son établissement. En l'occurrence, c'était l'école de musique de Haguenau. Et bon, ben, j'ai commencé avec 4 heures de cours par semaine, et puis bon, ben, petit à petit, la classe s'est développée jusqu'à avoir une classe à temps plein.
Comme quoi, on ne devient pas pianiste professionnel, c'est comme ça qu'on peut le dire ?
Absolument.
Ou musicien professionnel, oui. Hein, quel que soit.
C'est la même chose.
C'est la même chose, le même principe. Comme ça, en claquant des doigts, c'est avec des heures et des années d'études qu'on y arrive. C'est en démarrant très tôt aussi ou en démarrant plus tard.
Bien sûr, il n'y a pas de souci. Certains instruments, les chanteurs par exemple, commencent en général un peu plus tard.
Oui.
Tant que la voix est muée, qu'elle soit bien posée. Mm-hmm. Voilà, donc, mais c'est vrai que le violon ou le piano, ce sont des instruments qui nécessitent beaucoup d'heures d'entraînement. Et plus on commence tôt, en général, mieux c'est.
Voilà, et la réussite est là lorsqu'on a un certain nombre et un grand nombre d'heures de travail derrière. Francis Birt est notre invité pour cette émission. On présente Francis Birt, on apprend à mieux le connaître. On écoute également des extraits de son album, l'album Francis Birt Play Marc Mignon. Hein, et on en reparle dans quelques minutes avec de nouvelles interprétations. On décortiquera également cet album dans un instant. Francis Wirth, notre invité ce soir, changement de rythme et changement de ton, hein, côté musique avec cette ambiance très... Est-ce qu'on peut donner un terme sur cette ambiance pianistique?
C'est un peu difficile de parler d'ambiance, je dirais plutôt d'inspiration.
Ouais.
Le compositeur, en l'occurrence Marc Mignon, se reconnaît un petit peu dans un héritage Chopin, Liszt, Rachmaninov.
Mm-hmm.
Et
celui qui joue, qui interprète, se retrouve aussi dans cette ambiance en jouant ces morceaux?
Ah, bien sûr, mais je veux dire, je ne vais pas forcément retrouver l'ambiance que voulait le compositeur.
D'accord.
C'est-à-dire que l'interprète, par définition, interprète une pièce. Donc il y apporte sa touche personnelle, consciemment ou inconsciemment. Et par exemple, depuis l'enregistrement de cet album, certaines versions ont un petit peu évolué dans mon jeu. Certaines pièces sont jouées un petit peu plus rapides, par exemple, ou certains accents sont rajoutés ou d'autres supprimés. La pièce évolue, elle vit au fur et à mesure de ses exécutions.
Ça veut dire que rien n'est figé. On a bien sûr l'album CD, mais lorsque vous réinterprétez en concert les morceaux qu'on écoute, ils peuvent être différents.
Les différences sont minimes.
Oui.
La partition est toujours respectée, mais certaines nuances ou certains ralentis vont être légèrement différents. Donc ça crée une ambiance qui peut être légèrement différente. La trame générale ne change pas.
Mm-hmm.
Mais je veux dire, on va avoir les mêmes différences que dans une sonate de Beethoven ou une sonate de Chopin qui est interprétée par 10 instrumentistes. On aura 10 versions différentes. Pourtant, la partition est la même pour tout le monde.
Faut vraiment l'oreille du musicien et celui qui apprécie vraiment aussi la musique classique.
Et qui connaît bien la pièce.
Voilà. Alors, justement, en parlant de celui qui apprécie la musique classique, à l'heure d'aujourd'hui, la musique classique, ça veut dire quoi? Lorsque l'on va rencontrer des gens dans la rue, oh, t'as entendu Francis Wirth ou un autre qui joue de la musique classique, qu'est-ce que répondent les gens dans la rue lorsque l'on parle de musique classique? Qu'est-ce que vous entendez, vous?
Ben, je dirais qu'actuellement, la musique classique est un chef-d'œuvre en péril.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que
musique classique égale avenir ou...
Ah, ben, je l'espère.
Oui.
Je l'espère. Parce que malheureusement, la place réservée actuellement en France, principalement à la musique classique, devient de plus en plus congrue.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que, prenez l'exemple des chaînes classiques télévisées, sur lesquelles vous pouvez voir facilement de la musique classique. À part Arte ponctuellement, je n'en connais aucune.
C'est vrai France, les chaînes de la TNT, par exemple...
Voilà. À part la chaîne Mezzo, qui est une chaîne câblée, payante...
Sur satellite, en même temps,
voilà.
Oui.
La musique classique n'a pas une diffusion culturelle importante. À la radio, on trouve évidemment
Accent
4 ou France Musique.
Quelques radios, voilà. Effectivement, mais qui restent en même temps un petit peu sur une niche très discrète. Hein.
Tout à fait. Je veux dire, moi je pense qu'un développement au niveau de l'éducation par rapport à la musique classique serait le plus important. Parce que d'autres pays proches de nous, comme l'Allemagne, l'Autriche ou la Suisse, ont un répertoire diffusé beaucoup plus important que chez nous.
Mm-hmm.
Et chez eux, la musique classique a une importance beaucoup plus prononcée. Parce qu'il y a une demande.
Et parce que chez nous, en France, on peut considérer aussi que la musique classique, c'est pour une élite, c'est pour...
Presque, il y a un peu cette image à tort de la musique classique réservée à des connaisseurs.
Mm-hmm.
Alors qu'on peut très bien écouter de la musique classique sans avoir la moindre notion. Je veux dire, la musique classique produit et procure les mêmes plaisirs que n'importe quel type de musique.
Donc on peut quand même encore évoluer, espérer que ça se...
Ah mais je l'espère et je me bats pour ça tous les jours.
Oui, en même temps, vous vous battez tous les jours parce qu'on s'est arrêté au moment où vous aviez tous vos examens, vous avez démarré vos cours, les premiers cours avant-hier. Et...
Presque.
Presque. Mais là, depuis, vous avez un parcours, vous faites quoi autrement? Vous donnez des cours, des écoles?
Alors donc actuellement, j'enseigne, j'ai une classe à temps plein à Guenot, à l'école municipale de musique.
C'est plein en élèves
Ah oui, c'est plein, il y a une liste d'attente.
Ah d'accord.
Oui.
Donc c'est un bon point.
Absolument,
oui.
Il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'ai également une petite classe à Strasbourg, un jour par semaine, parce que je n'ai pas le temps d'en faire beaucoup plus, sinon je n'aurais plus le temps de travailler mon instrument pour moi.
Ouais.
Et ça serait très, très embêtant, parce que moi je considère qu'un bon professeur doit être également un bon instrumentiste. Je veux dire, si je schématise, je n'irai pas prendre des cours de tennis à quelqu'un qui ne sait pas jouer.
C'est vrai qu'en même temps, ça ferait un peu désordre. Mais voilà. ça veut donc dire que, en dehors des cours que vous donnez, hein, oui. Des explications, parce que c'est vrai que professeur de musique, notamment de musique classique, de piano, enfin, c'est un peu compliqué, non ? Vous devez apprendre plein de choses aux élèves, non ?
Non. Ça fait maintenant quelques années que j'enseigne. Oui. Je commence à avoir un peu de bouteille derrière moi. Et j'ai une classe donc avec des élèves qui sont du niveau débutant au niveau d'élèves confirmés.
D'accord.
Qui sont déjà d'excellents pianistes.
Et en dehors de ça, vous sortez en concert, vous jouez, vous produisez, on ne dit pas vous jouez, hein, produisez, oui. ça fait mieux, d'une manière régulière, un petit peu partout.
Oui, alors bon, mon activité principale est évidemment centrée sur l'Alsace, ça déborde un petit peu sur la Lorraine, parfois en Allemagne. Je joue ponctuellement aussi en Savoie, en Bretagne, sur Paris. Donc c'est très ponctuel et c'est suivant l'évolution des demandes d'organisateurs de concerts ou de contacts ou d'amis qui proposent des concerts.
Mais et ces concerts qui sont proposés, c'est quoi ? C'est le concert de la musique classique ? C'est le rendez-vous ?
Ça peut être, oui, absolument. J'ai un ami qui va me téléphoner pour me dire, voilà, il est chef d'orchestre, il envisage de faire un concerto, donc il a besoin d'un soliste, piano, et puis bon, on s'entend bien, on a déjà fait de la musique ensemble, donc il souhaiterait que la saison suivante ou deux saisons plus tard, je vienne interpréter un concerto avec son orchestre, et donc on bloque une date, et puis voilà, et moi je travaille de mon côté. Quelques jours avant, on se voit pour mettre au point les mises en place, la vision de l'œuvre commune qu'on souhaiterait avoir. Et puis on fait nos quelques répétitions, puis le concert.
Et vous avez joué, et vous jouez aussi avec les orchestres philharmoniques ?
J'ai la chance de jouer de collaborer avec l'Orchestre philharmonique de Strasbourg, mais en tant que piano d'orchestre, je précise. Donc je suis dans l'orchestre. Parce que bon, l'Orchestre philharmonique de Strasbourg reste une phalange prestigieuse. Et moi, je ne suis pas dans le circuit des grands concertistes qui ne font que des concerts, qui ne font que donner des concerts.
Donc vous accompagnez à ce moment-là...
C'est-à-dire que je suis dans l'orchestre avec un piano, comme un instrument, comme n'importe quel instrument d'orchestre.
Ça, c'est pour le philharmonique.
Et sinon, je joue en soliste avec d'autres orchestres. Et je me produis également en musique de chambre.
Oui.
Et en récital, donc en formation soliste.
C'est quoi la différence entre tout ça, musique de chambre?
Alors, musique de chambre, on va être 2, 3, 4, 5 à jouer, par exemple. C'est-à-dire un quatuor, une sonate, par exemple piano-violon, ou piano-clarinette-alto. Il y a beaucoup de formations. En récital, c'est donc piano-soliste, tout seul. Et en soliste avec orchestre, c'est donc un concerto. Donc le piano dans cette formation-là est l'instrument prépondérant, il est devant l'orchestre. Et c'est un petit peu, j'allais dire, d'une part l'instrument soliste et d'autre part l'orchestre.
Alors c'est un petit peu cruel comme question, qu'est-ce que vous préférez ?
Tout.
Il n'y a pas de préférence ?
Non, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir une période où on va faire un récital ou des récitals, puis on va faire un peu de musique de chambre, puis un concerto, donc c'est varié en permanence. C'est jamais les mêmes programmes, ce ne sont jamais les mêmes programmes. Et donc on a chaque fois des nouveautés, un autre cadre, une autre salle, d'autres partenaires parfois. Donc c'est toujours du neuf.
Est-ce que le public est demandeur en même temps et réagit de la même manière que sur un autre concert, hein, d'une manière d'un concert dit traditionnel ? Est-ce qu'il est tout feu, tout flamme également lorsque vous jouez ?
Pas de la même manière. Dans la musique classique, il y a malheureusement une certaine retenue de par le côté éducation, le côté solennel, un peu le décorum aussi qui fait qu'il y a le personnage en queue de pie sur scène, les gens dans la salle, donc il y a presque une barrière invisible qui se crée, qu'on essaye actuellement de faire tomber, et ça fonctionne plutôt bien. Donc par exemple sur certains concerts, je présente les œuvres, c'est-à-dire qu'avant le concert j'explique au public comment certaines œuvres fonctionnent, de manière à ce qu'ils aient déjà des clés pour pouvoir bien profiter davantage.
Bien suivre, comme une pièce de théâtre.
Exactement. Et ce principe-là fonctionne bien. Il y a d'excellents échos de la part du public.
Donc, vous essayez de démocratiser un peu plus la musique classique.
C'est ce qu'il faut faire. Ouais. C'est ce qu'il faut faire.
Très bien, Francis Wirt avec nous ce soir. On présente le nouvel album et on en parlera en détail dans quelques minutes de ce nouvel album. Francis Wirt, play Marc Mignon. Francis Wirth Plays Marc Mignon, le titre de cet album que nous découvrons ce soir, que nous écoutons ce soir avec Francis Wirth. Francis, toute une histoire sur ce CD, on peut en parler. Ça s'est passé comment? Comment on vient à la rencontre d'un compositeur? Comment on vient à se poser sur ses compositions avec le piano? Racontez-nous un petit peu.
C'est le hasard d'une rencontre. C'est-à-dire qu'un jour, je trouve un message dans mon casier à l'école de musique qui me dit, voilà, quelqu'un cherche à te joindre, un compositeur visiblement cherche à te joindre. Il a laissé son téléphone. Je le rappelle dans la soirée. Et en l'occurrence, ce compositeur, c'était Marc Mignon. Et Marc Mignon cherchait un interprète pour ses œuvres. Alors Marc Mignon est quelqu'un qui, comme je dirais, très modeste. Très modeste, et donc il est persuadé que ce qu'il écrit, ça n'a que peu d'intérêt. Mais il aimerait quand même pouvoir le faire jouer. Bon, et en l'occurrence, c'est quand même de la musique qui a beaucoup plus que peu d'intérêt. Et donc on se rencontre. Et je veux dire, le courant passe tout de suite. C'est-à-dire qu'on s'entend très bien. On est à peu près sur les mêmes longueurs d'onde. Et ce qu'il recherche avant toute chose, c'est quelqu'un qui puisse lui apprendre, parce qu'il est autodidacte. Et donc, il cherche quelqu'un pour lui apprendre, j'allais dire, des tournures de phrases musicales. Donc, moi, je n'ai qu'un apport très minime dans les compositions, qui est créer, par exemple, une petite fin à un moment, ou enchaîner avec un accord qui passera mieux pour faire une transition entre deux passages. Mais toutes les idées musicales, toute la mise en place des œuvres, c'est lui qui l'a réalisé.
Alors, ça se passe comment? Vous vous êtes rencontrés, vous avez discuté, mais vous vous êtes posé sur un piano pour dire, voilà, alors, il faut jouer ça
sûr.
Comme...
Voilà. Alors, il est d'abord arrivé avec ses partitions. Mm-hmm. Donc, il est arrivé avec ses partitions, on s'est mis devant un piano et j'ai déchiffré ses œuvres. Et donc, on a tout de suite discuté de ce qui fonctionnait un petit peu moins bien, de ce qui, à mon avis, à mon humble avis, devait être un peu corrigé ou modifié, ou parce qu'il y avait une petite erreur ou un petit détail qui fonctionnait pas, ou je pense qu'il ne fonctionnait pas. Et on était à peu près d'accord sur tout ça. Et donc, suite à ça, on a un petit peu finalisé l'écriture de ces pièces, de manière à avoir quelque chose de cohérent qui corresponde à ce qu'on souhaitait. Et après, on est parti à Paris pour enregistrer ces pièces.
Alors, avant de partir à Paris, vous avez bien sûr répété.
Évidemment.
Les choses se sont passées en de nombreuses heures, j'imagine.
Oui, nous avons passé plusieurs journées à fignoler tout ça.
Avec un thème sur cet album où, là, ce qu'on écoute depuis le début de l'émission, on est calme, c'est reposant, c'est... c'est de la musique classique au piano, c'est... Voilà, quelles sont les pièces, parce que j'ai bien retenu que vous appeliez ça des pièces. Les pièces qui sont sur ce CD sont diverses et variées.
Oui, bon, là, on a entendu des pièces principalement à caractère doux et lent. Mm-hmm. Il y a certains mouvements comme le premier et le troisième mouvement de la sonate qui sont beaucoup plus virtuoses, beaucoup plus énergiques, mais on retrouve un peu, à mon avis, davantage l'esprit de Marc Mignon dans les œuvres plus douces. Donc je pense que ça lui correspond parfaitement dans sa vision de l'écriture.
Cet album, vous êtes allé donc l'enregistrer à Paris. Il y a la petite anecdote de la chaise qui fait du bruit quand vous jouez au piano. Il faut la raconter parce qu'elle est trop bonne. Ça. Parce que quand on enregistre, on croit, on a l'impression, voilà, on s'assoit, on joue, tout se passe bien, merci, au revoir. Non,
c'est pas aussi simple.
Oui.
Déjà, il y a une certaine pression à l'enregistrement.
J'imagine.
Dans le sens où on fait plusieurs prises pour obtenir chaque fois le résultat le plus proche de ce qu'on souhaite. Et on y arrive rarement en une seule prise, bien évidemment. Et c'est vrai qu'on avait eu un petit souci avec le tabouret qui grinçait au début. Donc, la prise fonctionnait bien. Et puis, d'un coup, il y avait un bruit de tabouret. Donc, c'était un petit peu gênant.
Il faut un silence religieux. Hein,
Il faut malheureusement un silence religieux. On ne peut pas se permettre le moindre bruit parasite sur un enregistrement.
Cet enregistrement a été fait, fini, l'album emballé, distribué. Comment ça se passe?
Alors, il est en phase de distribution. Mm-hmm. Marc Mignon est en contact avec des personnes sur Paris pour la distribution, mais on peut actuellement se procurer déjà cet album via le site de la maison de production qui est, si je ne m'abuse, si je ne l'ai pas retenu par cœur, rac3.fr. Mm-hmm. www.rac3.fr. Et donc là, on peut déjà se procurer l'album par correspondance.
Voilà, on peut le découvrir dans son intégralité par des extraits, bien évidemment, qui sont mis en place sur ce site. C'est un premier album. On a déjà des retours un petit peu, vos élèves, par exemple.
Oui, absolument. Il y a beaucoup de pièces que j'ai eu le plaisir d'interpréter en concert qui ont rencontré du succès, notamment le deuxième mouvement de la sonate que nous avons écouté tout à l'heure, la valse élégante que nous avons également écouté. Et j'ai même déjà plusieurs élèves de ma classe, de mes classes, qui interprètent ces pièces.
Alors qu'ils interprètent exactement pareil
Absolument pas.
D'accord.
Absolument pas.
Oui, parce que j'imagine aussi que, bon, ok, là on a le professeur, il y a les élèves, mais j'imagine que peut-être chacun veut y mettre sa petite...
Ah, bien sûr. Au départ, il y a évidemment le travail technique de l'œuvre pour les élèves, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à jouer les notes, respecter le rythme, mettre les nuances. Et une fois que ça c'est en place, chacun va donner sa version. J'ai certains élèves, par exemple, qui vont l'interpréter un peu plus rapide et qui vont mettre des nuances légèrement différentes à certains endroits. Mais moi, ça ne me pose aucun problème.
Oui, c'est-à-dire que là, vous ne vous placez pas en tant qu'interprète au piano sur le CD, ni en tant que professeur, enfin, je ne sais pas.
Non, mais c'est-à-dire que je pars du principe qu'il n'y a pas une seule version qui, entre guillemets, détient la vérité. Donc, des personnes vont pouvoir jouer ces musiques-là, d'ailleurs n'importe laquelle, tout ce qui est musique classique, d'une manière légèrement différente. À partir du moment où c'est cohérent musicalement, ça va me plaire, même si ça ne correspond pas à mes visions premières de l'œuvre. Sinon, ce serait figé dans le temps, ce serait terrible.
Très bien, en tous les cas, des pièces à découvrir dans tous les rythmes sur cet album.
Hein. Tout à fait.
On a bien remarqué, là, on écoute effectivement les choses en douceur, dans l'esprit de Marc Mignon, donc le compositeur des mélodies que vous interprétez au piano. Vous avez pris plaisir à faire ce CD.
Ah oui, beaucoup de plaisir.
Ouais, quand on en parle comme ça...
Non, c'était très agréable. J'allais dire, pianistiquement, ça ne représente pas des difficultés insurmontables, comme on est amené parfois dans la musique classique traditionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire dans des œuvres de Liszt ou de Rachmaninov, où là, le niveau technique exigé est très, très élevé.
Et là, vous l'avez,
là, c'était plus facile à interpréter. Bon, après, il y avait le travail d'interprétation en lui-même, mais techniquement, ça posait moins de problèmes. La difficulté majeure que j'ai pu rencontrer au début, c'était me familiariser avec l'écriture manuscrite. Parce que la partition n'était pas éditée. Donc, Marc Mignon travaillait encore à l'ancienne, avec le crayon, la gomme et le papier à musique. Jouer de la musique manuscrite est toujours plus compliqué. Donc, il faut s'habituer à cette lecture-là. Ça demande un travail supplémentaire de mise en place.
Oui, parce que vous ne pouvez pas lire et puis en même temps jouer.
Exactement, c'est beaucoup plus difficile à lire.
C'est plus long. Voilà, il faut vraiment tout
assimiler. Il y a un travail d'approche.
Très bien, merci Francis Birt. On se retrouve dans quelques instants. Une nouvelle découverte sur cet album. Quelle est la pièce que nous allons entendre? J'aime bien le mot pièce, la pièce numéro 5. Et ça veut dire quoi avant qu'on l'écoute? C'est quoi la pièce numéro 5?
Alors, c'est le prélude. Alors je vais vous expliquer très rapidement les dénominations. Donc en général, quand les compositeurs classiques écrivent une œuvre, ils peuvent lui donner un nom, tout simplement, ou alors l'intituler avec le numéro d'opus et le numéro. Opus, ça veut dire œuvre, tout simplement.
Ouais.
Donc, par exemple, en l'occurrence, le prélude qu'on va entendre maintenant, prélude opus 1, numéro 2. C'est-à-dire que Marc Mignon a écrit 4 préludes. Donc, opus 1, son groupe de 4 préludes. Et dedans, il y a le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4.
C'est tout aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça.
Donc, on écoute le prélude
opus 1, numéro 2.
Francis Wirth plays Marc Mignon, le CD avec nous et Francis Wirth avec nous aussi. J'espère qu'on a un petit peu démocratisé la musique classique au travers de cet entretien que nous avons eu ensemble.
Je l'espère également. J'espère que les auditeurs ont apprécié les quelques notes qu'on a pu entendre.
Des quelques notes qu'on pourra entendre encore en se quittant tout à l'heure. On écoutera encore
une de ses œuvres.
Une pièce de ce CD.
Marc Mignon.
On vous voit quand, on vous voit où, si on veut apprécier, c'est dans un public, dans une salle, dans un endroit particulier.
Alors plusieurs dates sont en projet, principalement en Allemagne, et la prochaine date effective et définie sera le 22 août à Baden-Baden. Si je ne m'abuse, à la Weinbrenner Saal, mais je suis plus certain. Toutes les infos sont sur le site. Et donc c'est un récital qui aura lieu à 20h où on pourra entendre une partie des œuvres de Mignon avec également des œuvres de Chopin, Liszt et Debussy, Ravel.
Le tout, c'est vous qui jouez tout
c'est
ça.
C'est un récital de piano, uniquement des œuvres pour piano.
Qu'est-ce que vous en attendez de ce récital?
Beaucoup de choses, parce que déjà le public allemand est un public exigeant et très connaisseur.
C'est-à-dire qu'il va vraiment vous scruter
Peut-être pas scruter, mais ayant l'habitude des prestations de niveau assez élevé, parce qu'à Baden-Baden, il y a quand même le Festspielhaus qui accueille les plus grands artistes du monde. Je veux dire, les gens du CRU ont l'habitude d'entendre des prestations de très haut niveau. Donc déjà, ça met une certaine pression quant à l'exigence des pièces que nous allons présenter. Et ce sera également la première fois que des œuvres de Marc Mignon seront interprétées en Allemagne.
Est-ce qu'en région, vous pouvez être appelé aussi pour jouer de chez nous, en région de chez nous, pour jouer, pour faire des récitals au niveau
absolument.
Du piano
absolument. Oui, les dates ne sont pas encore définies, mais nous avons déjà interprété ces œuvres, alors, si je ne m'abuse, à Erstein, à Mutzig, à Strasbourg, à Haguenau. Peut-être encore un endroit dont je ne me souviens plus, mais bon, ce sont des œuvres qui tournent.
Ce sont des œuvres qui tournent, et vous faites comment? Vous venez avec votre piano sur le dos ou comment?
Non, en général, sauf quelques rares salles, comme le musée Wurth, par exemple, à Erstein, qui dispose d'un Steinway Day, les organisateurs louent un piano pour la prestation.
Et un piano qui doit être vraiment picobello, comme on dit. Hein.
Oui, faut un piano de parfaitement réglé et d'une qualité minimale.
Vos exigences quand on vous demande de jouer par rapport au piano, des marques particulières, des bois particuliers
Non, des instruments de type particulier. Si j'ai la possibilité, suivant le type de concert, bien évidemment, si maintenant une petite association m'engage pour faire un concert humanitaire, je comprends parfaitement qu'ils ne vont pas dépenser 1 500 € dans l'allocation d'un piano de concert. On pourra très bien se débrouiller avec un piano de niveau un peu inférieur. Mais pour un concert aussi important que celui qui est là, en l'occurrence, ce sera probablement un Steinway qui sera à disposition, qui sont les Rolls du piano.
Et c'est votre instrument préféré, enfin votre...
Ah, si j'avais le choix, oui.
Oui, on démarque de voiture, alors on dit, voilà, on préfère la voiture mais vous préférez aussi...
Bah, Steinway est la marque de piano qu'on rencontre dans le monde entier.
Oui.
Voilà, c'est le piano le plus polyvalent.
Donc il n'y a pas photo.
Ah non.
Très bien, Francis Wirth, ce fut un plaisir de vous recevoir autour de...
Grand plaisir partagé.
...de cette table pour nous présenter en même temps, vous présenter vous et nous présenter cet album. Cet album Francis Wirth plays Marc Mignon. CD disponible un petit peu partout, la distribution est en cours de route. Le 22 août, Baden-Baden,
voilà.
D'autres rendez-vous à venir.
Toutes les infos seront disponibles sur le site RAC 3.
Voilà, et vous nous tenez au courant également pour que nous puissions transmettre ces informations.
C'est très gentil.
Merci beaucoup. Allez,
merci à vous.
Dernier exercice, le dernier morceau qu'on va écouter,
la dernière œuvre. Le Nocturne opus 2, numéro 1.
Tout aussi simple que ça. Merci, Francis Wirth.
Merci à vous.
Il y a une histoire pour ce dernier titre
Pas particulièrement.
D'accord.
C'est une des œuvres de Marc Mignon.
Bonne soirée, merci.
Merci à vous.
Bon week-end.